Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission qui vous parle de l'actualité cinématographique. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et aujourd'hui, des films qu'on a plutôt aimés, et c'est bien.
En moyenne, oui, je dirais. Notamment Tueur, un polar belge. Je parlerai aussi du nouveau film de Robert Guédiguian, La Villa. Et enfin, Le Bonhomme de Neige, un thriller, une coproduction scandinave et britannique.
Et puis moi, je vous parlerai de films qui sont dans les salles depuis le 6 décembre. Alors, il y a tout d'abord le très attendu Santa et compagnie d'Alain Chabat, ce qui nous donnera l'occasion de jouer un blind test où il faudra reconnaître 5 titres dans lesquels joue Alain Chabat.
Ah, j'ai cru le Père Noël.
Non, ça me fera plus tard. Peut-être. Je vous parlerai aussi d'un homme intègre de Mohammad Rasoulov, iranien, qui a remporté le prix Un Certain Regard cette année à Cannes. Mais on va débuter cette émission avec Seule la Terre.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Seule la Terre de Francis Lee sur les écrans depuis le 6 décembre est le film qui a remporté le Hitchcock d'or, la statuette la plus convoitée du Festival du film britannique de Dinard. Il a aussi eu les faveurs du jury de Sundance où il a remporté le prix de la mise en scène lors de la dernière édition. Le projet du cinéaste fait partie de ces projets difficiles à mettre en image, je trouve, celui d'une histoire d'amour naissante entre deux êtres et comment l'un s'en trouve bouleversé parce que c'est une première fois. Bref, une éducation sentimentale. Ici, Francis Lee n'a pas choisi un couple hétéro, mais deux hommes. D'un côté, nous avons Johnny, un jeune homme qui travaille du matin au soir dans la ferme de son père et de sa grand-mère. Une ferme perdue dans les collines désolées du Yorkshire où le brouillard rivalise avec la bruine. Alors de l'autre, on a George, un saisonnier roumain qui vient donner un coup de main à l'exploitation le temps que le père se remette d'un AVC. Le film n'en fait pas mystère. Johnny le fiston se livre à la beuverie et aux coucheries son lendemain avec des jeunes garçons. Ainsi va la vie dans cette campagne abandonnée. Le film fait davantage de mystère en revanche sur le saisonnier qui débarque dans une ambiance pas des plus chaleureuses entre le père qui ne trouve pas son fils suffisamment rude à la tâche et la grand-mère qui n'en pense pas moins. La finesse de Seule la Terre est de ne pas faire de l'homosexualité un enjeu mais une clé. L'arrivée du saisonnier va bouleverser les habitudes et la résignation de Johnny. Une histoire d'amour, de corps aussi est possible, surtout chez deux êtres qui ont cette proximité à la terre, à la simplicité. En creux de cette relation qui surgit sans que Johnny n'y soit vraiment préparé, les deux hommes assistent quotidiennement au spectacle de la naissance de brebis avec son lot de surprises, d'étonnements et de morts aussi. L'occasion pour le réalisateur britannique de nous plonger dans des images métaphoriques d'une histoire qui pourrait naître ou ne pas naître entre les deux jeunes hommes. La mise en scène s'emploie à exprimer au mieux les émotions, les inquiétudes, les douleurs et les questionnements qui traversent Johnny, tout en nous décrivant au quotidien le monde paysan. Celui de l'étable à curer, du fumier à étendre, des clôtures à réparer, des bêtes à assister quand elles mettent bas. C'est l'autre versant de Seule la Terre, un film qui exprime la rudesse d'une terre qu'il faut quotidiennement travailler. Les plans se succèdent sur la campagne du Yorkshire, battus par les vents et le froid, mais baignant dans une lumière magnifique. Naissance des sentiments chez un jeune garçon qui ne se sentait ni prêt ni capable d'aimer, regard sur l'autre, vision du monde paysan qui meurt peu à peu, Seule la Terre combine tout cela avec une certaine rudesse, mais jamais le réalisateur ne nous perd en route. On voit le début et on guette la fin de cette histoire simple et si bien filmée. Seule la Terre, alors le titre anglais est God's Own Country, donc soit le pays de Dieu. Bon, ça a été traduit comme ça, Seule la Terre en français, et c'est sur les écrans depuis le 6 décembre.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Impact dans 50 mètres. 40. 30. 20. 10. Go !
Bienvenue dans l'univers du polar belge. Frank Valken a réalisé un casse impeccable, réglé comme une horloge, sans violence ni bavure. Mais un commando débarque après et exécute tous les témoins sur place, et notamment une magistrate qui enquête sur l'affaire des tueurs. Une vieille histoire qui remonte à la surface où un ex-ministre serait inculpé. Piégé, Frank est arrêté et incarcéré. Pour prouver son innocence, il s'échappe de prison. Voilà, Tueur débute, hein, si on accepte le très furtif prologue se déroulant au début des années 80, par un braquage minutieusement orchestré. Le rythme est haletant, l'action soutenue et l'assaut des braqueurs très crédible. Alors rien d'étonnant hein, de retrouver derrière la caméra un extruant étolard, le belge François Troukens, bien connu dans son pays puisqu'il fut aussi présentateur d'une émission sur les affaires judiciaires. Mais comme on ne s'invente pas forcément cinéaste, même s'il a à son actif un court-métrage remarqué, les Caïds, il s'est adjoint les services d'un directeur de la photo efficace pour l'épauler, Jean-François Engens, connu pour ses travaux sur des films d'action pas forcément très bons mais efficaces comme Banlieue 13, L'Anti-Gang ou encore Go Fast. Mais il est aussi directeur de la photo des films de Joachim Lafosse. Alors, l'ex-braqueur de fourgon a coécrit un scénario qui tient plutôt bien la route en dépit de dialogues parfois surfaits dans la veine de ceux d'Olivier Marchal. Alors, si l'on songe à ce dernier à plusieurs reprises, notamment ce qui concerne l'aspect visuel, notamment sur les couleurs bleutées et grisâtres, il s'écarte des films de l'ex-flic en se centrant sur le point de vue des truands, comme jadis José Giovanni, lui aussi qui était un ex-roi de la cambriole, passé derrière la caméra, comme quoi tous les chemins mènent au cinéma. Alors, rondement mené, ponctué de scènes de fusillade efficaces, Tueur est un excellent petit thriller, sec et tendu à l'ancienne, confectionné comme une bonne série B à l'américaine, et pour une fois, on ne s'en plaindra pas.
On a perdu Valken, et à mon avis, il est déjà loin.
Non, ça c'est ce qu'il veut nous faire croire.
Je ne laisserai pas coller ça sur le dos.
Alors c'est quoi, tous ces morts, ils disent que c'est vous?
C'est des conneries, ça.
Il y a un truc qui cloche dans l'affaire Valken.
La bande des tueurs fous en 1985. On a affaire à des gens infiltrés dans toutes les sphères de l'État.
Nous avons toutes les preuves, monsieur le ministre. Regardez son tatouage. C'est Valken.
Plus de juges pour enquêter, plus d'informateurs pour dénoncer. Faut bien admettre que quelqu'un agit à merveille pour brouiller les pistes. Hein.
Alors, en revanche, hein, la dimension politico-judiciaire, hein, on l'entend bien dans la bande-annonce, hein, elle est traitée quand même avec une désinvolture assez déconcertante. Ah, d'ailleurs, à un moment, le procureur, hein, un salaud corrompu, hein, tout comme le flic ripou interprété par Bully Lanners, déclare à l'inspectrice dans l'enquête « Vous n'avez aucune idée de l'ampleur du problème, le mal est parfois nécessaire pour gagner ». Alors, grand mystère, gagner quoi? On n'en saura rien. Rien n'est éclairci. Qui était ce gang de tueurs fous? Alors, pourquoi agissait-il? Pourquoi tant de personnalités publiques sont-elles impliquées? À la toute fin, une disquette est remise à un journaliste expliquant apparemment toute l'affaire. Mais une fois le générique défilant à l'écran, on reste quand même perplexe. Hein, surtout si on ne connaît pas l'affaire des tueurs du Brabant, criminels qui ont terrorisé la Belgique dans les années 80. Alors, passé cet écueil de taille, hein, le film réussit en revanche à convaincre par sa science du détail, la crédibilité de certaines situations, notamment l'évasion de la prison. Alors, même s'il passe à côté de son sujet fort, Tueur se situe nettement au-dessus du lot des polars francophones grâce à une mise en scène énergique et stylisée et un excellent casting, hein, notamment un très bon Olivier Gourmet tout en sobriété et Lubna Azabal, impeccable en inspectrice droit dans ses bottes. Alors un bon petit film du dimanche soir, hein, qui sort aussi des sentiers battus par son absence de vulgarité et d'étalage de violence, de pute, de coq qu'on retrouve, je trouve, dans les films notamment de Sean Dorfer ou de Olivier Marchal.
C'est vrai, c'est un film sec, hein, il dure pas tellement longtemps, alors tellement quand même que ben, le réalisateur a envie que ça aille toujours très vite et pour pas ennuyer son spectateur, mais une petite musique, même quand alors, il est question de dialogue.
Oui,
alors,
la
ça,
musique
c'est
électro,
dommage.
Elle est un voilà. peu trop présente et pas très intéressante en plus.
Voilà, ce sont des nappes, hein, juste comme ça, qui sont censées un peu attirer l'attention. Tueur, donc film belge sur les écrans depuis le 6 décembre. Et un autre film qui est aussi eh bien, sur ces écrans et qui est dans beaucoup plus de cinéma, c'est Santa et compagnie.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Non, Klaus. Prénom?
Santa.
On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant.
Et ça va aider pour mes lutins?
Ok, on va faire stupéfiant direct. Voilà.
De la déconnade, et puis c'est tout. Hein. Après Bad Santa ou encore Super Noël, on a bien le droit à une petite mise à jour sur Noël au cinéma, version française cette fois-ci, avec un nouveau film d'Alain Chabat, Santa et compagnie. Alors après le Marsupilami en 2012, hein, qui avait coûté bien cher pour un film qui, bon, mine de rien, ne valait peut-être pas autant de débauche financière, 40 millions d'euros quand même, voilà que l'ancien nul s'attaque au mythe du Père Noël. Alors dans Santa et compagnie, notre Père Noël s'appelle Santa Claus, hein, on vient de l'entendre, il vit en couple avec l'autorité sorcière Wanda, Madame Noël, interprétée par Audrey Tautou. Et si tout se passe bien à quelques jours de Noël, avec des lutins qui turbinent gratuitement, hein, comme dans un univers magique ou tortionnaire, tout un monde finit par s'écrouler après que les petites créatures, qui sont comparables à des préparateurs de commandes chez Amazon, tombent raides malades. Santa Claus, le Père Noël, donc en personne, doit descendre au milieu des hommes, en dehors de ses horaires habituels, soit le 24 décembre. C'est l'occasion pour lui de voir ce à quoi ressemblent eh bien, vraiment les hommes, et puis tant qu'à faire les enfants, hein, car si Santa les gâte sans trop broncher, il ne les connaît qu'apaisés, désireux de bien dormir pour découvrir les cadeaux sous le sapin le jour de Noël. Une grande épreuve attend donc Santa, qui doit absolument requinquer ses lutins. Le scénario repose sur une idée simple, confronter un personnage magique à notre univers.
Eh ben, ça avance bien tout ça.
Bah, qu'est-ce qu'il y a ?
J'ai attrapé chaud, là.
Magnus ?
Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du bande de lutins sera également touché.
Non, c'est une catastrophe.
C'est ça qu'il faut.
Quoi ?
Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, là, pifouf.
Ou là, maintenant ?
Ben oui, là, maintenant, Santa, enfin ! Il faut sortir les doigts de la hotte, là.
Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est du suicide !
Évidemment, Alain Chabat use des contrastes. Hein. Son monde féerique est précisément féerique, enfermé sous une bulle, dominé par la couleur et l'absence de contraintes. Quant au monde dans lequel il débarque, eh bien c'est Paris. Et très vite, le commissariat de police, pas très heureux. Là-bas, il fera la rencontre d'un avocat interprété par un Pio Marmaille impeccable. C'est lui et sa famille idéale qui permettront à Santa, qui a déboulé avec ses rênes sur le toit de l'immeuble, de faire rayonner à nouveau la joie de la fête. Alors encore faut-il que le plan se déroule sans accroc, ce qui ne sera pas le cas, sinon ce ne serait pas très drôle, et drôle ça l'est. Pas sûr d'ailleurs que les enfants à qui s'adresse aussi le film perçoivent toute la portée des dialogues parsemés de jeux de mots dans une veine culture pop que sait parfaitement manier Alain Chabat. C'était déjà le cas dans Astérix.
Moi je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez, vous êtes en prison ?
Oui. Non, je sais ce qu'est une prison, merci, je fabrique des monopolies, donc donnez-moi des dés, je fais un double et je sors.
Burlesque, effets spéciaux, personnages décalés, Santa et compagnie, est un divertissement qui se veut avant tout une comédie avec un gag toutes les 30 secondes, mais qui n'oublie jamais, et ça se termine ainsi, hein, de souligner que la magie de Noël est perdue, noyée dans le consumérisme. C'est pourquoi d'emblée, eh bien, le Père Noël d'Alain Chabat est vert et se demande pendant tout le film pourquoi on le présente en rouge. Il aura d'autres interrogations à ce Père Noël, puisque Chabat s'amuse à être très premier degré avec un être projeté dans ce monde magique où il ne reçoit de l'extérieur que des lettres d'enfants, à un monde où les enfants rabâchent, pleurent, crient, s'amusent. Autant de comportements que Santa Claus ne saisit pas. Seul importe sa mission et son retour dans le monde des lutins. Pourtant, ces trois jours lui apprendront bien quelque chose.
Ça me fait réaliser que tout n'arrive pas magiquement, comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière. Mot pour mot.
Voilà, ça me fait toujours rire. Bon, voilà. Donc, c'est très drôle. Santa et compagnie, c'est une belle réussite à voir, même avec les enfants, ce qui n'est pas peut-être le cas de toute la filmographie d'Alain Chabat. On va jouer un blind test. Donc, on va écouter 5 extraits de films. À vous de les deviner. Premier extrait, facile.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Quand nous avons affaire à un serial killer.
À quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, un tueur en série.
Ah, serial killer.
Bon, évidemment, comment c'est facile, toujours pour vous chauffer.
Et c'est de citer de la peur, hein, d'Alain Berberian, qui est décédé d'ailleurs, je crois que c'est cette année ou l'an dernier, je ne sais plus, mais assez récemment.
Film de 94 dans la veine, dans la poursuite des nuls, qui était déjà à la télévision. Deuxième extrait.
D'ailleurs, ça vient d'où votre prénom, Louis ?
Bah, peu importe.
Bah non, pas peu importe. On est censé se connaître depuis un moment, donc je vous ai forcément posé la question.
Mon père adorait Luis Mariano.
Ah ouais ? Si tu vas à Rio...
Non, ça c'est Dario Moreno.
Ouais, peut-être.
Non, pas peut-être, c'est Dario Moreno.
Bon, et à part ça, elle fait quoi, votre femme parfaite ?
Bah, elle n'a pas de tatouage déjà, donc faudra cacher ça. Puis sinon, cheveux propres, ongles faits... délicate, féminine, enfin voilà, le minimum pour une femme.
Je sais lire ou pas ?
Attendez, commencez pas les discours féministes, on fait pas un débat sur la condition féminine, le féministe.
Oh, ça va, je détendais l'atmosphère.
Bon, ça me fait rire aussi. C'est quoi ce film ?
Mais je ne sais plus, je sais que c'était avec Charlotte Gainsbourg. Hein.
Oui,
je
tout à fait.
Mais je ne me souviens plus du titre.
Étonnant de Charlotte Gainsbourg, d'ailleurs, j'aurais pu prendre plusieurs séquences où vraiment son jeu est vraiment fort. C'est Prête-moi ta main, film de Éric Lartigot, le réalisateur de Un ticket pour l'espace, mais qui a tué Pamela Rose et tout dernièrement de la famille Bélier. Film de 2006, maintenant on passe à un film de 2005.
Mon père, il a perdu son papa quand il était vraiment petit. Ce qui fait que bah, le jour où il est devenu papa, il savait pas trop comment s'y prendre, quoi.
On lui avait pas appris à être papa.
Non, mais non.
Et comment il était, sinon?
Il était très intelligent. Mais vraiment, quoi, vraiment. Plus que la moyenne. Il réfléchissait, mais surtout. Tout le temps, surtout. Fait qu'à force de réfléchir, même il oubliait de vivre.
Alors, road movie entre un père et son fils, il y avait plusieurs indices là.
Donc c'est papa.
Oui.
C'est Maurice Barthélémy, c'est pas ça?
Oui, ah, oui. C'est ça, film de 2005, quatrième extrait.
Voilà l'idée. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement les postes de télévision deviennent très méchants.
Quels postes de télé?
Tous.
Tous?
Ouais, tous, partout.
Partout sur Terre?
Ouais.
Ok, bon, continue.
Ok, donc... Les gens s'en rendent pas compte, mais les télévisions leur envoient des ondes qui sucent petit à petit leur intelligence, jour après jour. Les gens deviennent alors complètement stupides, et si vous voulez, plus les gens deviennent stupides, plus ils regardent la télévision, forcément, et plus ils deviennent stupides, et ainsi de suite.
Mmh. Science-fiction.
Voilà.
Science-fiction, évidemment, la télé qui rend débile.
Réalité de Quentin Dupieux.
Oui. Film, là, on entendait Jonathan Lambert en producteur, hein, qui attend d'Alain Chabat qu'il écrive un film qui va remporter les Oscars parce qu'il y aura le cri le plus effrayant, hein, de l'histoire du cinéma. Encore un extrait facile pour terminer.
Assez !
Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus... Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça, d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome.
Une province?
Ah oui.
Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides.
Des trucs pointus, là.
Ah bon, évidemment, ça, on ne le voit pas. On n'a que le son à la radio, mais il fait le dessin de la pyramide. C'était plein d'inventions, ce film. C'est pour ça que j'ai souhaité le passer. Et c'est
Astérix et Cléopâtre.
Mission
et Cléopâtre, oui.
Ouais. Film de 2002. Ainsi s'achève ce blind test spécial Alain Chabat. On aurait pu en faire, évidemment, un tout autre. Et ce sera pour une prochaine fois. On écoute maintenant, eh bien, ce que tu as pensé du film de Robert Guédiguian.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi?
Dès les premières images, hein, lumineuses, la villa impose une mise en scène qui aurait pour moi la force tranquille des grands films classiques. Je pense notamment à des gens comme Clint Eastwood ou John Ford, une sorte d'évidence comme ça. Et ce qui frappe le regard, c'est la beauté des plans, la fluidité avec laquelle Guédiguian les assemble. Tout paraît simple, serein, il est loin le temps où le cinéaste pêchait par une forme malhabile, bâtarde, parfois proche de l'amateurisme. Même des films populaires ayant rencontré un succès comme Marius et Jeannette accumulaient les approximations formelles et les faux raccords. La villa commence donc sous les meilleurs auspices. Pourtant, le sujet très sombre, un peu rebuté, il laissait craindre le pire, hein, soit une sorte d'invasion barbare pittoresque filmée dans le sud de la France, près des Calanques à Marseille. Alors Angèle, Joseph et Armand se réunissent autour de leur père mourant. Il s'agit pour eux de faire un bilan de leur vie, d'évoquer leurs engagements, leurs rêves, leurs désillusions, leur éloignement les uns des autres aussi, avec un trauma comme ressort dramatique, la mort accidentelle de la fille d'Angèle 20 ans plus tôt. Autour d'eux, une génération plus jeune vient bousculer leurs certitudes.
Je tente avec ce resto de continuer dans l'esprit de papa, avec des petits prix pour des gens qui ont peu d'argent. Mais là, j'y arrive plus.
J'étais génial, tes pâtes.
Je ne fais que les recettes de notre père.
Les recettes de notre père qui avait piqué à notre mère. Il ne savait pas faire cuire un œuf avant qu'elle meure.
Comment tu as fait pour rester si loin de nous?
S'il n'y avait pas eu ce partage à régler, je ne serais pas revenu.
C'est un accident. Tu nous as traités comme des criminels. Tu sais même pas ce qui s'est passé.
On a retrouvé les restes d'un bateau, probablement des migrants. Faites attention, hein, ils peuvent être dangereux.
Dangereux?
Oh, regarde!
On les a trouvés dans la colline. Je ne vais te dire escapé du bateau.
Qu'est-ce qu'on fait?
Le conflit de génération n'est certes pas le cœur du sujet, mais il est là, prégnant, et Guédiguian, qui n'a jamais troqué ses convictions, Surtout son regard peut paraître dur, voire réactionnaire à l'image de cette scène cocasse où Darroussin dit fièrement que c'était mieux avant. Alors Guédiguian assume le constat et on le critiquera sans doute pour ses positions tranchées, mais il le fait avec une telle empathie et une absence de didactisme que ça coule de source. Alors pourquoi pas au fond, hein, il ne prend pas de pincettes, n'édulcore pas son récit, quitte à représenter la jeune génération comme moins idéaliste et davantage arriviste, plus enclin au pragmatisme financier notamment qu'au romantisme idéologique. Mais le regard du cinéaste est quand même bienveillant à l'égard de tous, hein, jamais méchant ni mesquin. Il a gardé de son militantisme sa foi, ses convictions archaïques, mais il ne les brandit pas comme un étendard de vérité. Il aime les personnages qu'il filme, il les regarde, on va dire, à hauteur d'homme, comme notamment John Ford que je citais au début. La villa a la simplicité et l'ambition d'une œuvre universelle qui tente la réconciliation d'une famille qui s'était éloignée. Une réconciliation désabusée et en même temps tournée vers impossible. Guédiguian réunit sa troupe de comédiens qu'il dirige depuis ses débuts, hein, Gérard Meilhan, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin. Et quelques jeunes aussi comme Anaïs de Moustier et Robinson Stévenin, d'ailleurs étonnant en amoureux idéaliste. Ils sont tous merveilleux, même lorsque leur jeu se ferait un chemin du côté du théâtre, avec parfois des dialogues surécrits. Mais cette absence de naturalisme est plutôt convaincant. Alors le film a beau être sombre dans son propos, il n'est jamais dans la résignation, toujours du côté de l'espoir, ce qui le rend assez unique en ces temps où le cinéma d'auteur a une fâcheuse tendance à nous plomber le moral, tant sur le plan thématique qu'esthétique. On reprochera, et là à juste titre, à Guédiguian de trop en faire, notamment dans sa dernière demi-heure où apparaît des enfants migrants, un ressort narratif roublard. Il a recours là à une émotion un peu facile, un humanisme de bisounours, mais la sincérité du cinéaste, hein, toujours le point tendu, toujours critique vis-à-vis des institutions et la politique en vigueur est intacte et ça fait plutôt plaisir. Alors La Villa n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film que je dirais qui fait du bien et c'est déjà énorme.
Et encore un film, hein, de Guédiguian tourné évidemment à Marseille. Puisque c'est sa ville d'adoption.
Pas tous ses films ne sont pas tournés à Marseille.
Mais hein, quasiment. Mais,
En tout cas, tous ses premiers jusqu'en 2004-2005, toute sa filmographie, ouais, tout a été filmé à Marseille.
Un autre réalisateur qui veut absolument tourner là où il est né, c'est Mohammad Rasoulov, qui est malheureusement condamné par le régime iranien.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Prix Un certain regard à Cannes 2017 et prix mérité pour un homme intègre de l'iranien Mohammad Rasoulov. Sur les écrans depuis le 6 décembre, d'autant plus mérité que le réalisateur qui a fait le choix de tourner dans son pays, car il n'y a que là-bas qu'il peut résister, dit-il, est accusé d'activité contre la sécurité nationale et de propagande contre le régime. Rien que ça, des chefs d'accusation passibles de 6 ans de prison. Enfermer les artistes. Le réalisateur a fâché les autorités avec son film, comme il l'avait fait avec un autre film co-réalisé avec Jafar Panahi en 2010. Les deux hommes avaient été condamnés à un an de prison, mais cette peine, Mohammad Rasoulov ne l'a jamais effectuée. Il se pourrait que cette fois-ci, il n'y échappe pas. La version de son film Un homme intègre qu'il avait présenté aux autorités et qu'il a eu le droit de tourner dans son pays n'est pas conforme au projet qu'il avait présenté au préalable. C'est une histoire simple. Le cinéma iranien va rarement d'ailleurs chercher des scénarios alambiqués. C'est celle de Reza, un homme installé en retrait avec sa femme et son fils. Il a quitté Téhéran et une carrière prometteuse pour rejoindre un village isolé et se consacrer à l'élevage de poissons d'eau douce, tandis que sa femme est institutrice. Alors il pense avoir choisi une vie tranquille, mais la police lui réclame un document administratif et les dettes s'accumule. Dans le même temps, une compagnie privée liée au gouvernement souhaite acquérir son terrain pour un projet immobilier et pour y parvenir, elle est prête à tout. Reza veut tenir, se battre, mais il se heurte à une société corrompue tenue par un potentat local qui agit en souterrain. Alors Reza parviendra-t-il à ne pas imiter ceux qu'il combat ? C'est tout l'enjeu de ce long métrage parfaitement réalisé par Mohammad Rasoulov, d'une beauté sombre et d'un pessimisme redoutable.
نمیخوام رشوه بدم. مسخره کردی مرد حسابی؟
On est là dans le registre du scénario implacable. Chaque fois que Reza trouve une solution, un autre problème se présente. Et ça n'est pas mieux quand sa femme s'en mêle. Elle a cette phrase. La fierté des hommes crée des problèmes que l'intelligence des femmes doit bien souvent arranger. Pourtant, il faut parfois admettre que les ennemis ont plus de ressources. Les structures sociales corrompues, au pire, écrase l'individu, au mieux, font de lui un des maillons de la chaîne de la corruption, estime le réalisateur qui confronte son héros à la violence d'une société qui a oublié l'intégrité, la justice et tant qu'à faire la compassion. Noir, c'est noir pour Mohammad Rasoulov qui n'admet de repos qu'à l'intérieur de la maison et encore faut-il qu'il ne soit pas question dans le couple des renoncements, des sacrifices, des punitions qui les accablent et des dettes qui s'allongent. Avec le portrait de cet homme qui résiste à la corruption, Mohammad Rasoulov charge évidemment la société iranienne, sa censure, son régime, et sa police corrompue. Ce qui pourrait être une fable sur un pays tourmenté se transforme en thriller social et politique avec une mise en scène qui s'attarde sur son personnage, ne lui donnant du répit qu'à l'écart des hommes lorsque Reza plonge dans une source d'eau chaude que cache une grotte et c'est là-bas qu'il boit une petite goutte d'alcool de contrebande qu'il cache dans sa maison, qu'il est bien obligé de cacher sous peine d'être mis au banc. Alors d'une beauté formelle captivante avec des images tournées dans les tons froids portées par un acteur magnétique, un homme intègre se nourrit d'un scénario simple et limpide écrit et réalisé par un réalisateur que le pouvoir iranien aimerait museler, un film qui s'appuie sur une grammaire cinématographique sans esbroufe et dont on ressort avec la tête passablement engourdie. Alors le distributeur, bizarrement, a choisi le titre « Un homme intègre », mais le réalisateur iranien, lui, avait choisi un titre plus métaphorique, « Lurd », c'est donc en anglais le nom de la lie du vin, donc le dépôt que fait le vin en vieillissant. Voilà, « Un homme intègre » de Mohamed Razoulov, film hautement conseillé en salle depuis le 6 décembre, un film qui est actuellement en salle, c'est « Le bonhomme de neige » et c'est pas forcément une histoire de Noël.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Période hivernale oblige, et oui, le bonhomme de neige semble tomber à pic, mais comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas forcément une histoire de Noël. Rassurez-vous donc, aux grandes dames des enfants, il ne s'agit pas d'une production familiale destinée à nos chères têtes blondes, mais d'un thriller adapté d'un best-seller scandinave de Joe Nesbø, auteur très apprécié des amateurs du genre.
Laila Hassen et Arve Stoop avaient une liaison, et c'est là-dessus que mon père enquêtait juste avant qu'il se fasse tuer.
Tu es entré chez Vetlesen en douce parce que tu avais peur que j'apprenne ton lien avec cette histoire et que je t'écarte de l'enquête.
Vetlesen, c'était son rabatteur. Quand les meurtres ont commencé, ils étaient à Bergen tous les
deux. Je vois ta détermination, mais tu ne peux pas assembler le puzzle de force.
Toi, tu es certain qu'il a tué ses femmes ?
J'en sais rien. Je crois qu'on ne peut être sûr ni l'un ni l'autre.
Peut-être que ça va t'aider à retrouver tes couilles.
Le film débarque en France avec une très mauvaise réputation, hein, et la critique française n'y est pas allée de main morte, le descendant en flèche sans aucune nuance. Alors sans faire l'avocat du diable, hein, il faut dire que le réalisateur suédois Thomas Alfredson, à qui l'on doit l'impressionnant Morse et La Taupe, a rencontré bien des difficultés. Le film aurait été remonté dans son dos, en l'occurrence par la monteuse de Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker. Mais cela explique-t-il une telle déroute ? Pas vraiment. Pourtant, Le Bonhomme de Neige part d'une intrigue classique, mais parfaitement comestible, et si on écoute les fans du livre, l'histoire est même passionnante. Alors un détective alcoolique enquête sur la disparition d'une femme lors des premières neiges en hiver. Épaulé par une jeune recrue brillante, il va rapidement faire le lien avec d'autres affaires non élucidées. À chaque fois, un bonhomme de neige se retrouve près de la scène du crime. Alors un sujet lambda propre à satisfaire les amateurs de Woody Night, genre très en vogue dans les années 90, mais qui a progressivement disparu des écrans. La déception est réelle, mais pas cruelle. On peut prendre un certain plaisir à suivre cette histoire si on n'est pas trop regardant sur les gros problèmes d'écriture. Alors on a vraiment l'impression qu'il manque des bouts, que certaines scènes sont coupées brutalement tandis que d'autres étirées inutilement. Le scénario articule maladroitement l'intrigue policière, le portrait d'un flic dépressif tentant de reconquérir son ex et la description nébuleuse de la corruption politique. Alors le rythme plus languissant qu'envoûtant ne produit pas l'effet escompté. On devrait être captivé, mais on est surtout perplexe devant une histoire aussi inutilement alambiquée et mal racontée. On peut aimer les récits tortueux avec plein de zones d'ombre, mais à condition de s'y tenir. Or, la grande faiblesse du film est de nous offrir le coupable sur un plateau d'argent. Alors, pas besoin d'avoir lu l'intégrale d'Agatha Christie pour deviner l'identité. Dès que le potentiel suspect apparaît à l'écran, l'évidence s'impose, d'autant qu'il n'y a quasiment aucune autre alternative. Alors à ce moment, le constat est rude et on se dit qu'il est impossible que le film soit l'adaptation fidèle du roman. L'autre problème de taille tient à sa distribution, hein, prestigieuse mais vaine. Les comédiens n'ont rien à jouer, ils ne sont que des silhouettes fonctionnelles de romans de gare. Michael Fassbinder est transparent, totalement. Charlotte Gainsbourg fait de la figuration inutile et le pauvre Val Kilmer est lui totalement ridicule. Et pourtant, malgré tous ces défauts, le film est moins mauvais que prévu, plutôt agréable à visionner comme un téléfilm de luxe très soigné visuellement, notamment grâce à la magnifique photographie de Dion Deeby, qui est chef opérateur de Collateral et Miami Vice. Thomas Alfredson n'a pas totalement perdu la main, il compose de très beaux plans, magnifiant des décors enneigés. Lorsque la parole s'absente, que l'on oublie un peu l'intrigue, certaines séquences sidèrent par leur beauté plastique. Alors le réalisateur suédois est doué, mais il s'est perdu hein, dans cette coproduction internationale, parasité par ses innombrables compromis, à commencer par une musique totalement envahissante et pénible.
Bah, sinon, on pourra aussi regarder les précédents. Moi, j'avais... très apprécié la taupe. Et quand tu parles de la lumière, effectivement, il y avait vraiment une lumière spécifique aussi dans ce film.
Ah, c'est un cinéaste assez doué, hein, mais là c'est vraiment le scénario qui est très très mal écrit et qui plombe tout, à mon avis. Hein. Dommage.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Hop, on n'a même pas 5 minutes, mais on va très vite parler de La Promesse de Terry George, parce que c'est aussi un film que j'ai vu, notamment parce que à l'intérieur de ce film, eh bien, il y a Oscar Isaac, que je compte eh bien, parmi les acteurs, sans doute ceux que j'apprécie le plus de voir à l'écran. Il y a Christian Bale, et puis Charlotte Lebon, et bien, c'est un film sur le génocide arménien, mais pas seulement. Alors, ils ont voulu greffer une histoire d'amour, c'est ce qui vient plomber tout le film, mine de rien. Donc, c'est un film qui peut être vu, eh bien, ne serait-ce que pour se rendre compte eh bien, de l'ampleur de ce génocide donc, qui a touché la population arménienne. Voilà La Promesse de Terry George, c'est sur les écrans.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, nous ferons un blind test spécial Johnny Hallyday. Nous ne serons pas insensibles à sa disparition. Et puis, on écoutera une interview, celle de la réalisatrice de Mariana, film chilien.